Alors, deuxième conférence de cette matinée avec le père Guillaume de Horter, qui est carme, basé à Avon. Nous sommes donc en mode Avon, voilà.
Bravo.
Vous êtes provincial de la province de Paris, voilà. Et je vous laisse donc le soin de présenter votre conférence. Merci.
La scène de Gethsémani est dans la vie de Jésus une scène mystérieuse, à la fois attestée par les trois évangiles synoptiques en des termes convergents et évoquée par ailleurs dans l'Écriture, des textes comme Jean 12, 27-28 ou l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Cette scène de Gethsémani est paradoxalement peu présente dans les lectionnaires liturgiques qui ne la racontent qu'au cours du récit de la Passion du dimanche des Rameaux, récit programmatique de tout le Triduum pascal. Toutefois, le Jeudi Saint, à l'issue de la célébration de la scène, la prière du reposoir lui donne chaque année un relief tout particulier. Ce moment d'adoration du Saint-Sacrement, de par son contexte liturgique, met comme en surimpression et l'institution de l'Eucharistie qui vient d'être célébrée et la scène du jardin des Oliviers qui la suit dans l'Évangile et qui nous fait ainsi entrer dans le Vendredi Saint. Par sa discrétion, mais du coup par cette concentration en un point de l'année, la liturgie en signifie déjà quelque chose. La scène de l'agonie est une anticipation de la passion dont elle livre le secret de don et d'abandon, non pas ma volonté, mais ta volonté. Force est de constater que ce mystère fut cher au sein du Carmel. S'il fallait nous en convaincre, nous pourrions citer en premier lieu la Madre, Sainte Thérèse. Son habitude de méditer la scène du jardin dénote sa familiarité avec celle-ci. Aussi peut-elle conseiller, par exemple, à qui veut prier, « Êtes-vous sous le poids de la douleur et de la tristesse ? Regardez Jésus se rendant au jardin. Quelle affliction remplit son âme, puisqu'étant la patience même, il ne manque pas de la faire connaître et de s'en plaindre. » Quant à Sainte Thérèse de Lisieux, elle témoigne au seuil, au soir de sa vie, citation des derniers entretiens, « J'ai lu un beau passage dans les réflexions de l'imitation. Notre Seigneur, au jardin des Oliviers, jouissait de toutes les délices de la Trinité, et pourtant son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. » Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, il en est de même pour le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Au cours d'une retraite prêchée, il fait ainsi cette remarque. C'est évidemment, je le cite, c'est évidemment la scène, à mon avis, la plus importante de la Passion, parce que la plus spirituelle et qu'elle nous permet d'aller jusqu'aux profondeurs. Ailleurs, nous voyons la souffrance physique du Christ. Et cette souffrance physique, ces blessures qu'il reçoit, nous dissimulent, semble-t-il, le drame intérieur que nous devinons être le plus douloureux pour lui et le plus mystérieux. Méditer le mystère de Gethsémani, ce n'est pas nécessairement faire l'exégèse exhaustive de tous les récits bibliques relatifs à cette scène de l'Évangile. Mais cela offre une certaine lecture de ces récits. Dans le cadre de ce colloque placé à l'écoute de l'écriture avec le bienheureux Marie-Eugène, cette étude intervient simplement, pourrions dire, comme une leçon de choses. Dans l'imposant corpus du bienheureux, j'ai retenu trois genres de textes. Premièrement, les heures saintes relèvent sans doute du genre le plus spécifique à notre sujet. En effet, le jeudi saint, au cours de l'adoration qui suit la Sainte Cène, le Père Marie-Eugène animait durant une heure la prière devant le Saint-Sacrement. Ses paroles furent précieusement recueillies d'année en année et forment un ensemble de textes dont j'ai retenu trois pièces, accessibles car toutes les trois éditées. Deuxièmement, deuxième ensemble de textes, au cours des retraites, l'ardent prédicateur méditait volontiers sur Gethsémani. Parmi ces retraites se trouve celle prêchée chaque année à Notre-Dame de Vie pour des prêtres. De cet ensemble, j'ai retenu deux conférences. Enfin, Je veux voir Dieu est jalonné de références à la scène de l'agonie que je présenterai de manière synthétique. Le parcours aura d'abord pour objectif de faire entendre la méditation du Père Marie-Eugène. Je me permettrai donc d'abondantes citations. Je donnerai ensuite également des éléments d'analyse, à la fois sur le fond, ce que le bienheureux médite du mystère, que sur sa manière exégétique et herméneutique. Le parcours que je vous propose comprendra donc trois parties correspondant à ces trois types de textes, avant une conclusion qui rassemblera les éléments de l'analyse. Premier ensemble de textes, les heures saintes. Je viens d'en présenter, au fond, le Sitzim Leben. J'ai sélectionné les heures saintes de 1961, l'heure sainte de 1961, de 1962 et de 1966. Je m'arrêterai plus longuement sur la première, ce qui fournira une grille d'analyse qui pourra servir pour lire les deux autres heures saintes et souligner plus particulièrement leur spécificité. Je commence donc l'exploration des heures saintes par celle prononcée à Notre-Dame de Vie en 1961 et qui est éditée dans le recueil « Jésus, contemplation du mystère pascal ». Donc on peut y accéder très facilement. Comme toute heure sainte, elle se présente comme une prière adressée à Jésus. Elle s'ouvre ainsi, je cite, « Ô Jésus, nous voici près de vous pour passer une heure avec vous. Vous l'aviez demandé à vos apôtres. Fatigués et faibles, ils n'avaient pu vous accorder cette heure. Cela faisait partie du calice que Dieu le Père vous avait préparé. Nous allons tâcher de rester fidèles. » Toute la suite de la prière est scandée par des « Ô Jésus » qui balisent un fil rouge de cette prière, mis à part sur la fin deux adresses, l'une au Père et l'autre à la Sainte Vierge. Dans cette prière s'exprime un amour profond de Jésus, un désir de mieux le connaître et de mieux le comprendre en revivant cette heure avec lui et une offrande de soi où retentit fortement la réalité du désir, ainsi que l'exprime la prière finale que je cite. Ô Jésus, je prends votre prière et vous prenez la mienne, rendez-la efficace. Portez-la au sein de la Trinité Sainte, inscrivez-la dans les desseins de Dieu comme une de vos volontés. Je voudrais partager tous vos désirs et vous, prenez les miens, faites les vôtres. Faites-les volonté de Dieu pour qu'ils se réalisent. Rendez-les non seulement efficaces, mais grands et étendus comme vos désirs. Il est probable que je ne sais pas suffisamment désirer. Vous voulez plus, vous voulez plus grand. Faites ces désirs, non pas seulement à la mesure de mon faible amour, faites-les à la mesure de votre amour pour tous ceux que j'aime. La progression de cette prière est limpide et fortement théologique. Partant de l'obscurité de la scène de Gethsémani, nous voulons pénétrer dans cette obscurité qui vous sert de refuge et expliciter par la parole de Jésus « C'est l'heure de la puissance des ténèbres » Luc 22, 53. Le bienheureux Marie-Eugène médite d'abord le thème de la lumière. Vous êtes la lumière, vous êtes le Verbe, la splendeur de Dieu, lumière des lumières. Puis, se référant de nouveau à l'heure des ténèbres et citant le qualificatif donné par saint Jean-Baptiste d'agneau qui porte le péché du monde, Jean 1, 29, le Père médite la réalité de ce péché et de ce qui est en train de se passer intérieurement à Gethsémani, à savoir la contradiction en Jésus entre le péché du monde et la sainteté et le combat qui s'y livre. Je cite, « Ô Jésus, vous le voyez, vous le portez, ce poids immense pèse sur votre âme. Il y pèse lourdement, non pas seulement parce que le péché est immense, mais parce que vous êtes saint, vous êtes pur, parce que vous êtes la lumière, le Verbe qui spire l'amour. Ô contradictions, oppositions inconcevables. » De ce combat jaillit alors le fiat de Jésus, que votre volonté soit faite, ô Père. Le bienheureux s'adresse alors au Père, puis à la Sainte Vierge, avant la prière d'offrande finale adressée à Jésus, que je viens de citer. Jésus lumière, le combat qui l'assaille et se joue en lui, et l'union à la volonté du Père qui en ressort comme une victoire et qui appelle notre propre offrande, voilà au fond le mouvement profond de cette longue prière. Celle-ci n'a pourtant rien de schématique. La structure que je viens de rassembler, de manière un peu schématique justement, se voit habillée d'une étoffe tissée de riches fils herméneutiques. Nous repérons ainsi quatre recours qui aident l'interprétation de la scène méditée. Recours à une certaine littéralité du texte évangélique, recours à l'intertextualité biblique, recours aux exemples des saints et recours à la théologie dogmatique. Premier recours, la prière du Père Marie-Eugène n'est pas une lecture littérale du texte évangélique. Mais il semble que le texte de Luc soit en arrière-fond de celle-ci. Certains indices de cela, de ce qu'il me semble que c'est l'évangile de Luc qui est en arrière-fond de sa méditation, on peut citer l'évocation du jet de pierre, Luc 22, 41, des sueurs froides, Luc 22, 43, de la volonté de Jésus, Luc 22, 41, alors que les évangélistes Marc et Matthieu écrivent non pas ce que je veux, alors que Luc parle de la volonté de Jésus. Autre indice, l'heure des ténèbres, Luc 22, 53. L'évangéliste Luc établit aussi un lien clair entre la scène des tentations au désert avec celle de Gethsémani, Luc 4, 13, ayant épuisé toute tentation, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment favorable. Le Père Marie-Eugène se réfère explicitement à ce lien entre les tentations et la scène de Gethsémani pour bien montrer que la scène de Gethsémani est une scène de combat et de tentation. Je le cite. « Le péché est soutenu par les forces vivantes du démon qui a subi un échec au début de votre vie publique au désert et qui, depuis lors, est allé fourbir ses armes au désert et dans l'enfer. Il a rassemblé ses troupes, il a utilisé les ressources de son intelligence, toute sa malice. Des références à d'autres textes de l'Écriture éclairent sa lecture. Donc là, je développe davantage ce deuxième recours à l'intertextualité biblique. L'Écriture explique l'Écriture. Le verset de Jean 1,29, « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde » est décisif dans la progression du texte puisqu'il assure le passage de la méditation de la lumière à celle de l'obscurité et du péché. Et cette référence revient très souvent dans les méditations du père Marie-Eugène sur Gethsémani. La référence au mystérieux verset de saint Paul en 2 Corinthiens 5,21 permet d'approfondir cette méditation. Vous êtes, je le cite, vous êtes devenu le grand pécheur. Vous êtes transformé en péché. Le lien avec les tentations au désert, je l'ai déjà mentionné. Le père Marie-Eugène fait également le rapport avec la scène du Tabor. Parmi les discours joanniques d'après la scène, outre la citation de Jean 14, 5 et l'utilisation de l'image du cep, de la vigne, Jean 15, 5, une citation libre de la prière sacerdotale, Jean 17, pour donner des versets, verset 11, verset 17, verset 24, donne à la fin du texte du relief au verset, à l'offrande de Jésus, que votre volonté soit faite de la scène de l'agonie. Le père Marie-Eugène évoque, troisième recours, l'expérience des saints du Carmel, celle de la Madré et celle de la petite Thérèse qui est citée deux fois. Je le cite, « Thérèse de l'enfant Jésus, sur son lit de mort, soutenait aussi une lutte avec des sueurs sur le front, une certaine désespérance dans le regard, dans toute son attitude. Elle avait voulu votre épreuve et elle la connaissait. » Enfin, quatrième recours, la théologie du Verbe incarné et de la rédemption est à la base de cette lecture. Il s'agit d'une herméneutique théologique nourrie des conciles christologiques et de saint Thomas. L'intention de cette méditation, de cette heure sainte, est clairement l'appropriation du mystère. La lecture a pour objectif de mieux connaître et comprendre, de mieux aimer et croire, et de faire la volonté du Père. Pour cela, l'auteur s'approprie le texte en parlant par exemple de « mon Gethsémani », de « mon péché ». Vous y découvrez le mien, celui de l'orgueil de mon intelligence, celui de ma volonté, celui de toutes mes tendances. Vous m'avez vu, ô Jésus, vous voyez ma bonne volonté, mon amour, et vous voyez mon péché aussi. Je le sens, ce péché, spécialement ces tendances toujours vivantes, ces forces qui me désespèrent parfois, qui me font sentir ma pauvreté, ma misère. Au service de cette appropriation se déploie aussi une riche imagination, vous pensez à la conférence d'hier, une riche imagination et une profonde sensibilité. Nous vous voyons partir des bords du Cédron, vous enfoncer dans la nuit, en des lieux qui vous sont familiers. Ou encore, autre citation, « Jésus, je vous vois défaillir. » La ferveur est à l'œuvre aussi, comme nous l'avons déjà vu dans la prière finale. Illustrons-la aussi par l'audacieuse reprise du jet de pierre. Je le cite. Vous laissez vos intimes à un jet de pierre. Nous voulons franchir cette distance, être troupe tout près de vous, ô Jésus. Plongez notre regard dans votre âme. Veuillez ouvrir votre âme, veuillez ouvrir votre cœur. Voilà pour cette présentation un peu détaillée de l'heure sainte de 61. Je m'y suis attardé car les danses profondes exemplaires. pris le temps de la lire et de l'analyser, ce qui a fourni au fond une grille de lecture mettant en évidence les caractéristiques d'une prière, son mouvement général, ce que j'ai appelé ces quatre fils herméneutiques, lecture littérale, intertextualité, référence au sein du Carmel et soubassement théologique, et les ressorts des ressorts de l'appropriation. Je vais parcourir maintenant plus rapidement, avec cette même grille, deux autres heures saintes, celle de 62 et celle de 66. L'heure sainte de 62 se présente, elle aussi, comme une longue prière, scandée par des « Ô Jésus » et des « Ce soir ». Elle s'attarde assez longuement sur le contexte à la fois évangélique et liturgique, précédant respectivement la scène de Gethsémani et la prière de l'heure sainte. Cela donne lieu à de nombreuses références intertextuelles. Jean 10, 31-38, la tentative de lapidation. Luc 21-29, le figuier desséché. Luc 21-37, les nuits en prière au mont des Oliviers. Jean 11, la résurrection de Lazare. Jean 12-28, la glorification du Fils de l'homme. Et nous y retrouvons les citations bibliques déjà évoquées de Jean 1-29. Voici l'agneau de Dieu qui prend le péché du monde, et de Luc 22-53, voici l'heure des ténèbres. Ensuite, le père Marie-Eugène contemple le combat intérieur de Gethsémani, la concomitance de la lumière de Dieu et des ténèbres de l'enfer, ou, je le cite, le choc du péché. Ô Jésus, quel mystère, quelles antinomies chez vous. La force et l'originalité de cette méditation de 62 sont assurément de se porter sur la joie de Dieu, foyer consumant, amour infini, bien diffusif de vous-même, mais aussi joie de la victoire pascale déjà entrevue. Vous allez trouver votre glorification et votre joie dans l'expansion de vous-même, dans cet éclatement, cette diffusion de votre vie et de vous-même dans le corps mystique. C'est là votre glorification, celle que vous entrevoyez. La prière se tourne alors vers la Sainte Vierge pour lui offrir cette joie et apprendre à son école ses exigences de votre expansion, de votre fécondité partagée. De nouveau adressée à Jésus, la prière continue de contempler la joie de ce triomphe et de cette glorification qui ont leur point final dans la Trinité sainte et qui contrastent avec la tristesse de Jésus. Mais, commente-t-il, la vue de Gethsémani sans cette perspective de triomphe et de glorification ne serait pas complète. Vous vous êtes incarné au Verbe de Dieu pour la rédemption, et cette rédemption est faite pour l'Église. C'est là le chef-d'œuvre, le but final. La prière ne s'appuie... C'est le chef-d'œuvre, le but final. Voilà, alors cette prière, cette heure sainte de 62, ne s'appuie pas sur une version évangélique spécifique. Elle évoque tour à tour Matthieu 26, 37, 40 ou Luc 22, 43. Elle évoque également l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila, l'enseignement de Saint Jean de la Croix. L'appropriation de la scène de Gethsémani se réalise au cours de cette prière grâce à une imagination vive et sensible qui, en particulier au début de la prière, prête attention aux divers personnages qui côtoient Jésus, les amis, la Sainte Vierge, les Saintes Femmes, la foule, et grâce à une foi, une ferveur intense. Il s'agit de revivre la scène pour consoler Jésus, participer à sa victoire, être dilaté dans sa foi et entrer en profondeur dans le mystère. En 1966, la prière de l'heure sainte, toujours adressée à Jésus, veut le connaître et être connue par lui. Ô Jésus, nous passons ce moment auprès de vous. Nous savons bien que c'est l'heure des confidences, heure pendant laquelle vous parlez volontiers de vous, de ce que vous êtes, de vos sentiments. Vous nous parlez de nous aussi, de ce que nous sommes pour vous. Nous venons pour que vous nous instruisiez, pour vous connaître davantage afin de vous ressembler, nous voudrions surtout vous entendre prier pour savoir prier comme vous, avec vous. Elle commence par une sorte de dialogue contemplatif, alternant les affirmations de la foi. Vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le Christ, vous avez pris une humanité. Et des affirmations de foi. Nous le savons, nous croyons en vous. La prière sacerdotale, Jean 17, est alors introduite. Vous voici maintenant presque au terme de votre voyage ici-bas. Vous allez résumer votre mission, vos désirs pour l'avenir dans une prière. L'apôtre Jean l'a enregistré, cette prière, sous l'action de votre esprit. Permettez-nous, ô Jésus, de retrouver cette prière, de la faire avec vous. Sa méditation, verset par verset, va se poursuivre jusqu'à la fin de cette heure sainte, portant sur la glorification du Fils, puis sur l'Église. Ô beauté du corps mystique du Christ, de la plénitude du Verbe incarné, de la beauté parfaite de l'Église, telle que Dieu l'a lue. Nous retrouvons là ce thème de la joie et de la destinée ainsi entrevue, comportant l'union, l'unité. C'est alors qu'avec le monde, la réalité du mal, le démon, la douleur, tout cela est médité, nous ramenant ainsi à la scène de Gethsémani qui inaugure la suite de la passion et le sacrifice offert dans le sang. En terminant, je cite le Père Marie-Eugène, « En terminant, laissez-nous nous approcher de votre autel du sacrifice, de ces régions obscures, de cette grotte de Gethsémani où vous allez souffrir, où vous allez réaliser l'union. » Je passe maintenant au deuxième ensemble de textes, les retraites sacerdotales. C'est donc un autre genre de méditation de Gethsémani, les conférences données au cours des retraites sacerdotales que le bienheureux prêchait chaque année à Notre-Dame de Vie. Dans le texte écrit, j'en ai sélectionné deux, celle de 1960 et celle de 1964. Mais ici, faute de temps, je ne présente que celle de 1960. Elle porte sur ce que le Père appelle le tableau de Gethsémani. Il en pose les références évangéliques, en commençant par saint Marc, l'écho de Pierre, puis en lisant la version de Luc, qui ajoute un détail particulier que certains auteurs disent apocryphe. Les versets joanniques de Jean 12, 27, 28. Nous pourrions prendre, je le cite, « Nous pourrions prendre encore le récit de saint Matthieu. Il n'y a pas besoin de cela, c'est suffisamment évoqué. » Comme nous l'avons déjà lu, notre prédicateur fait alors le lien entre la scène des tentations au désert pour souligner le rôle du démon. S'appuyant sur saint Thomas, il précise sa puissance sur les sens extérieurs, mais non sur l'intelligence. Et il peut alors décrire Gethsémani comme l'affrontement de deux esprits dont nous avons déjà rencontré certaines descriptions dans les heures saintes, mais ici il se fait plus théologique, je le cite. « Tout le drame de Gethsémani va être constitué par le fait que Jésus est homme-Dieu. Il jouit de la vision béatifique, que la divinité qui est en lui le pénètre de lumière, de pureté et d'amour, et qu'en même temps, le démon pourra agir sur certaines de ses puissances, les puissances inférieures, et faire sentir son poids à cette partie de l'humanité du Christ. Quel poids ? Le poids de ce qu'il est, le poids de la haine, le poids des ténèbres, le poids du dégoût qu'il inspire, de la haine qu'il respire, le poids de sa présence, le péché. Devant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le Père Marie-Eugène contemple Jésus en prière, prière d'abandon, qui demeure toutefois mystérieuse. Je le cite. « Nous ne savons pas, Gethsémani est un mystère. » Après avoir affirmé cette action du démon, cette action de la haine, cette action des ténèbres sur notre Seigneur, puis après avoir reconnu que c'est là ce qui constitue vraiment sa souffrance faite de ce contraste, de cette opposition, nous ne pouvons guère aller plus loin. Par contre, il convient de scruter le poids de souffrance de Jésus à Gethsémani, ce que montre la scène de la prostration face contre terre, avec le détail de la sueur du sang que le bienheureux éclaire avec une référence à Jean de la Croix et à un verset de l'Écriture, Isaïe 63, 2. Cette souffrance est due au poids du péché et à la présence du démon. Elle est de ce fait plus forte que celle du lendemain. La passion extérieure, on pourrait dire. Enfin, dans une partie davantage parénétique, s'appuyant sur le modèle du curé d'Ars, le père prêche à des prêtres, le prédicateur invite à la patience dans l'union avec Jésus, en portant à notre tour le péché du monde à l'image de l'agneau de Dieu. Ces perspectives ne doivent pas nous effrayer. La victoire pascale est assurée, le problème du mal est au fond résolu. Je le cite, « Le problème du mal, c'est cela. Le problème du péché, c'est cela. Il existe le mal, il a été commis le péché, et il continue à être commis, et malheur à celui qui le commet comme Judas. Comment résoudre ce problème ? En prenant ce péché sur nous, en le portant, en devenant agneau pour en débarrasser le monde. Il nous faut donc désirer participer au mystère de Gethsémani. » Évidemment, il nous reste maintenant à entrer dans « Je veux voir Dieu ». Autre genre littéraire que les autres, que les heures saintes ou que les prédications de retraite, mais qui a pareillement son origine dans l'enseignement de la vie spirituelle, « Je veux voir Dieu » ne se présente jamais comme un commentaire en tant que tel de Gethsémani, mais au cours de la description de telle ou telle étape de la vie spirituelle, la scène de l'agonie s'avère très présente dans les propos du bienheureux. Sans prétendre à un repérage exhaustif, le recours à l'index biblique et une recherche à partir des mots « Gethsémani »,« jardin »,« olivier »,« agonie » permettent de constituer un ensemble impressionnant de textes se référant à Gethsémani. Et on peut les classer, me semble-t-il, selon trois grandes thématiques que je vais développer maintenant, l'oraison, le péché et la nuit de l'esprit. Premièrement, l'oraison et le charisme thérésien. Dans les chapitres présentant le charisme thérésien et l'oraison, la scène de Gethsémani est assez présente à la suite de l'expérience de la Madre elle-même. S'appuyant sur la Vida ou sur le chemin de perfection, le père Marie-Eugène décrit les premières oraisons comme des regards sur Jésus. Êtes-vous dans le chagrin ou la tristesse ? Considérez-le lorsqu'il se rend au jardin des Oliviers. Quelle affliction profonde que celle qui remplissait son âme, puisqu'étant la patience même, il manifeste ses souffrances et s'en plaint. Qu'il cite Thérèse, et décrivant l'oraison de recueillement, le père Marie-Eugène reprend donc l'injonction thérésienne de ne pas abandonner le bon Jésus. Parcourant l'évolution de la prière, le bienheureux illustre l'étape de la contemplation théologique par celle du tableau de Gethsémani. Il affleure par là que c'est une scène très présente chez lui où l'on retrouve son imagination, sa foi, sa ferveur, sa sensibilité. Je le cite. « Nous voici devant Jésus à Gethsémani, une nuit claire. Les oliviers aux formes étranges assombrissent la vallée, l'obscurité de la grotte. À l'entrée, Jésus, la face contre terre. Nous nous approchons. Jésus gémit, semble s'agiter, prononcer des paroles entrecoupées, des gouttes de sang perlent sur son visage. Tout cela nous révèle un drame intérieur terrible, les assauts du péché contre l'humanité du Christ. Notre regard qui s'attache à ce spectacle sanglant n'en voit plus les détails. Il est plus loin dans la réalité vivante, l'agneau de Dieu qui a pris le péché du monde, dont le poids maintenant l'accable et le fait agoniser. Immobile, paisible, douloureux, nous regardons. Et par ce regard, la lumière entre profonde, vivante dans notre intelligence. Enfin, le charisme thérésien est présenté comme la poursuite du mystère de Gethsémani dans sa réalité antinomique. Je le cite. Donc, Je veux voir Dieu, page 124. Sainte Thérèse et ses filles vont continuer pour l'Église la prière de Jésus à Gethsémani. Et le cadre de leur vie et la spiritualité qui les guide les préparent à remplir cette fonction du sacerdoce du Christ. Leur fidélité à la grâce de leur vocation doit les conduire dans ces régions où l'âme purifiée mérite de recevoir en même temps les flammes de l'amour qui consume et le manteau du péché qui opprime, et où, auprès de l'agneau qui porte le péché du monde, Elle apprend à murmurer la prière ardente et douloureuse qui purifie et qui sauve. C'est ainsi que sainte Thérèse de l'enfant Jésus, à la fin de sa vie, baignée dans les flots de la miséricorde divine qui la pénètre et l'environne, mange le pain noir de l'incrédulité moderne en supportant des tentations douloureuses contre la foi. Cette prière, hautement contemplative et éminemment efficace, est la première forme de l'apostolat thérésien, le premier but de la spiritualité thérésienne. Deuxième ensemble de textes autour du péché. Pour méditer la réalité du péché mortel, la scène de Gethsémani en manifeste toute l'horreur. La citation assez longue de « Je veux voir Dieu », que je vais maintenant vous lire, reprend de manière saisissante beaucoup d'éléments déjà rencontrés de la méditation du bienheureux sur la scène du jardin. Donc je fais la citation, mais on va pouvoir retrouver des choses déjà rencontrées dans les heures saintes en particulier. Je le cite donc, page 149-150. La foi offre un spectacle vivant et douloureux qui étale horriblement la puissance du péché, celui de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Jésus était venu ici-bas pour nous délivrer du péché en le prenant sur lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est en ces termes que Jean-Baptiste présentait le Christ à la foule sur les bords du Jourdain. L'humanité sainte du Christ, ointe de l'onction de la divinité et de ce fait impeccable, avait pris sur elle le péché du monde. Le poids du péché, Jésus le prit en venant en ce monde. Le péché du monde, comme un manteau d'inonymie, recouvrait dès le principe le saint par excellence et en fit une victime. Entre les flots de lumière et de bonheur qui lui venaient par la vision béatifique de la divinité qui habitait en lui corporellement, et le lourd fardeau d'inonymie qui l'enserrait, le Christ Jésus cheminait vaillamment et s'en allait vers sa passion. Après la scène, ayant traversé le Cédron, Jésus accuse un changement en son âme. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. » En entendant ce cri de tristesse, comment ne pas songer à la parole de saint Paul « La solde, l'œuvre du péché, c'est la mort. » Que s'est-il passé? Par une opération qui nous reste mystérieuse, Jésus a renversé en quelque sorte l'équilibre en son âme. Il a permis au flot du péché qui était contenu par les flots de la vision de déborder en son âme et d'y accomplir leur œuvre de destruction avec toute leur puissance. Les sens sont ainsi envahis, les facultés de l'âme, intelligence, volonté sont enveloppées. Rien ne saurait être souillé dans le Christ, mais il peut souffrir et mourir. Cette humanité sainte va devenir le terrain de rencontre des deux plus grandes forces qui soient, celle de la divinité qui la sanctifie, celle du péché du monde de tous les temps. C'est l'enfer qui monte à l'assaut du ciel pour épandre ses ténèbres, sa haine, sa mort. Pour mesurer la souffrance du Christ, son dégoût, ses ténèbres, le poids de la haine qu'il porte, il faudrait pouvoir mesurer la distance qui sépare sa sainteté du péché, dont les flots destructeurs l'envahissent. La souffrance est dans le contraste et dans la vigueur avec lesquelles ses forces s'étreignent, la sainteté étant passive, la haine paraissant avoir seule le droit de lutter et de détruire. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Jésus, qui sans faiblir avait porté le poids de la divinité, tombe à terre, gémit, répand une sueur de sang sous le poids du péché. Son humanité eût succombé si Dieu n'avait envoyé un ange pour le soutenir et lui assurer la force pour franchir toutes les étapes de son sacrifice. Plus éloquemment que tous les discours et toutes les visions, le drame de Gethsémani dévoile la puissance destructrice du péché. Troisième ensemble du texte, du « Je veux voir Dieu », troisième ensemble de textes que j'ai sélectionné dans « Je veux voir Dieu ». Dans les pages consacrées à la nuit de l'esprit, la méditation se fait plus profonde encore. elle se déploie dans plusieurs chapitres très denses de « Je veux voir Dieu ». La description de la nuit de l'esprit qu'elle donne en est une lecture christologique qui offre un modèle pour la traversée. Je cite, page 762-763. « La nuit de l'esprit est un véritable drame. Pour en éclairer l'horreur et en expliquer la fécondité, il faut le rapprocher du drame de Gethsémani qu'il prolonge. Gethsémani vit la collusion de la pureté de Dieu et du péché du monde dans l'humanité du Christ qui allait porter ce double poids. Cette humanité sainte y fut écrasée, brisée, anéantie. Quelques plaintes aux apôtres, des gémissements dans la nuit, la sueur de sang, laissèrent deviner l'horreur du drame silencieux et profond qu'enveloppait l'obscurité du mystère. Et cependant, le rachat de l'humanité, la naissance et les développements de l'Église ont révélé la qualité de la victoire remportée par la patience du Christ en ce combat. La nuit de l'Esprit est une participation à cette souffrance et à cette victoire du Christ. » Alors, là j'ai omis, il détaille, enfin il fait la distinction entre justement la souffrance du Christ et la souffrance de l'âme qui vit la nuit de l'Esprit, et il conclut « Toute proportion gardée, c'est bien Gethsémani qui se prolonge dans la nuit de l'Esprit que subissent les vaillants. L'Église entière est intéressée à leur victoire. » Alors, le temps me manque ici pour détailler les allusions à Gethsémani dans la suite de l'ouvrage. Par exemple, dans la description des souffrances de la nuit de l'Esprit, dans la présentation de Jésus comme modèle durant cette nuit, qui s'appuie sur les sixièmes demeures du livre du château, ou dans cette mise au point sur la nature profonde de l'union transformante illustrée par l'exemple de la sainte de Lisieux. Dans le chapitre final, le saint dans le Christ total, nous trouvons cette dernière allusion à Gethsémani, qui est magnifique. Comment le saint, je le cite, « Comment le saint, transformé par l'amour et identifié au Christ Jésus, ne porterait-il pas en lui ces richesses caractéristiques de l'amour divin ici-bas ? De fait, l'amour qui le divinise le laisse un homme comme nous. Il porte en lui le Tabor et Gethsémani. Il est le plus heureux des hommes parce qu'il jouit du Verbe en son sein et le plus malheureux parce qu'il porte le péché du monde. » Et nous retrouvons là, pour le disciple, donc arrivé à le saint dans le Christ total, nous retrouvons cette réalité de l'antinomie si chère au Père Marie-Eugène. Il est temps de conclure. Au cours de ce parcours, où j'ai donné largement la parole au bienheureux, nous avons pu peu à peu repérer des lignes de force de sa contemplation de Gethsémani, mais aussi de sa manière de lire et d'interpréter les scènes évangéliques correspondantes. C'est ce que je voudrais rassembler dans cette synthèse conclusive. Premièrement, un regard saisissant. Des points constants du regard du bienheureux Marie-Eugène sur le mystère de Gethsémani apparaissent clairement. La longue citation de « Je veux voir Dieu » sur le péché mortel est à ce titre très représentative. L'antinomie en Jésus entre la lumière de sa sainteté et l'obscurité du péché, permise par une sorte de renversement qui se réalise au cours de la scène du jardin et qui donne lieu à ce terrible combat dont le « non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite » est déjà la victoire et constitue pour chaque chrétien un modèle d'attitude sacerdotale de prière et de souffrance en communion avec Jésus dans la patience. Une des originalités de ce regard est tout à la fois la mesure de la souffrance extrême et singulière du Christ et la joie de la victoire promise et déjà irradiant le mystère, joie de l'Église, et que le Père Marie-Eugène contemple parfois déjà dans le mystère de Gethsémani. Un regard saisissant, là j'ai essayé un peu de reprendre un peu tous ces éléments de cette contemplation du mystère de Gethsémani par le Père Marie-Eugène. Deuxièmement, manière de lire et d'interpréter. Les textes du Père Marie-Eugène ne se présentent pas comme des exégèses savantes des textes bibliques, mais font œuvre d'exégèse et d'interprétation des Écritures qu'ils scrutent et écoutent avec foi et attention. Certains détails de la scène de l'agonie prennent ainsi une ampleur considérable. L'angoisse et la tristesse de Jésus, sa sueur, le réconfort de l'ange, l'abandon de Jésus au Père, l'attitude des disciples. Le recours à l'intertextualité biblique illustre bien l'adage selon lequel l'Écriture explique l'Écriture. Certaines références s'avèrent incontournables dans la méditation du Père Marie-Eugène. J'ai déjà cité Jean 1,29, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Luc 22,53, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Jean 17, aussi la prière sacerdotale, la scène des tentations au désert et du Tabor. L'attention au contexte évangélique, jour précédant la Passion, institution de la scène, récit de la Passion, discours après la scène, déployé diversement au long des textes que nous avons parcourus, est à souligner. Des références extra-bibliques montrent enfin que l'interprétation de l'Écriture se fait en Église, portée par l'expérience des saints et l'interprétation de l'Église. Ainsi se comprennent l'appui sur la christologie des conciles et de saint Thomas et les figures de sainteté, la Sainte Vierge, les docteurs du Carmel, le curé d'Ars. Dans cette lecture, nous avons souligné la sensibilité, l'imagination du Père Marie-Eugène. Son attention aux personnages, aux cadres géographiques, la vallée du Cédron, le temple, le jardin. À travers elle, s'exprime avec force sa foi et sa ferveur. Enfin, troisième point de cette conclusion, le père Marie-Eugène n'a pas voulu faire œuvre d'exégèse. Sans doute qu'aux yeux des exégètes de métier, sa lecture mélange facilement les diverses versions évangéliques. Et il n'offre pas une lecture détaillée des textes bibliques. Un travail d'exégèse, là je pense par exemple au l'ouvrage du père Feuillet, à André Feuillet, L'agonie de Gethsémani, alors qui est paru en 77, ce n'est pas tout à fait contemporain du père Marie-Eugène, mais voilà, je pense que voilà, on pourrait approfondir avec un travail d'exégèse qui permettrait de confirmer bibliquement certaines intuitions du bienheureux. L'attention à l'heure des ténèbres, pourrait ainsi, à partir de l'évangile de Marc, être amplifié par le climat du chapitre 13 de cet évangile. Certains liens intertextuels pourraient être approfondis. Les tentations au désert, la transfiguration, où nous retrouvons par exemple, dans les versions marciennes des deux évangiles, le même « ils ne surent que lui dire », à la fois dans la scène de Tabor et dans la scène de Gethsémani. L'angoisse de Jésus, grâce à l'arrière-fond du serviteur souffrant d'Isaïe 53, pourrait prendre un sens messianique compris comme prise en charge du péché du monde. Autre suggestion, le lieu du mont des Oliviers est pour saint Luc à la fois celui de l'agonie, mais aussi celui de l'ascension, acte 1. Cela pourrait donner un appui géographique et symbolique à la méditation si forte du père Marie-Eugène sur la joie. Le parcours que nous avons réalisé illustre finalement ce propos de l'exhortation post-synodale Verbum Domini qui offre un bel encouragement à poursuivre ensemble œuvre d'exégèse et herméneutique de la sainteté. Je cite le numéro 49. La sainteté dans l'Église constitue une herméneutique de l'Écriture dont personne ne peut faire abstraction. L'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés est le même qui conduit les saints à donner leur vie pour l'Évangile. Se mettre à leur école représente un chemin sûr pour entreprendre une interprétation vivante et efficace de la parole de Dieu. Merci de votre attention.
Je voudrais simplement revenir sur ce que vous disiez par rapport à son interprétation de l'Écriture qui ne fait pas œuvre d'exégèse. Il me semble que Le fait que dans sa méditation, beaucoup de textes que vous avez cités, alors c'est surtout vrai des heures saintes, mais je pense que les heures saintes, sa contemplation de la scène dans les heures saintes a nourri sa réflexion théologique. Et donc, l'intertextualité, le rapprochement entre les textes dans la prière se fait à partir de l'expérience spirituelle. Et que ce qui dans le numéro 12 de Dei Verbum qui décrit un petit peu la démarche de l'exégèse, donc l'écoute attentive du texte pour lui-même, mais ensuite sa lecture dans l'unité de l'écriture, au fond l'expérience spirituelle écoute l'écriture dans son unité parce que toute l'écriture éclaire l'expérience spirituelle. Et donc l'intertextualité, la lecture intertextuelle, elle se fait à partir de cette expérience. Alors ce serait intéressant de voir comment l'exégèse contemporaine retrouve le sens de l'unité de l'écriture. Je pense à l'exégèse canonique. Mais aussi le sens des relectures à l'intérieur de l'écriture qui fait que on est plus sensible aujourd'hui à la cohérence de toute l'écriture, alors que peut-être il y a quelques dizaines d'années au temps où l'exégèse historique mettait en relief le contexte historique précis des textes, on avait plus tendance à les isoler. Voilà, c'est juste une petite remarque.
Si. C'est une question, mais c'est peut-être que je n'ai pas entendu, en fait. Est-ce que vous avez parlé de Jean de la Croix? Et est-ce que Jean de la Croix a parlé de Gethsémani? Parce que vous avez parlé des deux Thérèse, et je me suis dit, oh, mais et Jean de la Croix, est-ce qu'il a parlé de Gethsémani?
Est-ce
qu'il en parle différemment?
Pas explicitement, mais de fait, son enseignement sur la nuit de l'esprit, dans un des textes, oui, le Père Marie-Eugène fait référence à cela.